Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais vous parler du thème le droit et les droits dans les principes de la philosophie du droit. J'ai envoyé le texte qui va servir de base à mon exposé, ce qui permettra notamment aux non-francophones, auprès de qui je m'excuse de parler en français, de suivre plus facilement mon exposé. Par ailleurs, cet exposé, tel que je l'ai écrit, même après plusieurs réductions, est trop long. Je serai donc amené à en couper une partie. Donc j'y vais. Les traducteurs anglophones des Grundlinien der Philosophie des Rechts ont été confrontés à un problème qui ne se pose pas aux usagers des langues romanes. Comment faut-il traduire le mot recht? En effet, ce mot peut se traduire en anglais, suivant le contexte, par right ou par law. Par exemple, le droit allemand se traduira par the German law et le droit international par international law, alors que le droit de propriété et les droits de l'homme auront pour équivalent the right to property et the human rights. Dans bien des cas, le choix repose sur des conjectures interprétatives. Par exemple, faut-il traduire Naturrecht par natural law ou par natural right? Tout dépend à la fois du contexte et de la conceptuelle et de la conception qu'on a soi-même du droit naturel. Les traducteurs anglophones des principes ont unanimement choisi, il existe trois traductions avec des petites variantes, ont unanimement choisi de traduire philosophie des rechts par philosophy of right. C'est une option qui peut sans doute être justifiée avec des arguments solides. Mais ces traducteurs, qui étaient philosophes ou historiens, je tiens à le préciser, suivis par la plupart des commentateurs anglophones, ont en général considéré que cette traduction allait de soi et n'avait pas spécialement besoin d'être étayée. De même, ils ont admis sans autre forme de procès que le mot law était la traduction indiscutable de das Gesetz, alors que la langue juridique anglaise utilise de préférence d'autres termes pour désigner les actes législatifs. Aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, les lois au sens européen du terme, c'est-à-dire les actes parlementaires de législation, sont nommés acts, bills ou statutes. Le terme law a une extension beaucoup plus large, puisqu'il inclut toutes les normes juridiques, qu'elles soient d'origine parlementaire, jurisprudentielle ou coutumière. Il est donc extensionnellement équivalent au français le droit ou à l'allemand das Recht. Le choix de traduire Rechtsphilosophie par Philosophy of Right engage donc tacitement une interprétation d'ensemble de la philosophie hegélienne du droit, selon laquelle la notion de right ou de droit subjectif constitue la pierre angulaire de cette philosophie. Autrement dit, la doctrine de l'esprit objectif, puisque telle est dans l'encyclopédie la dénomination technique de ce que les principes de la philosophie du droit nomment le droit, das Recht, serait une philosophie du droit objectif parce qu'elle est une philosophie des droits subjectifs. Pour employer une terminologie introduite par Ronald Dworkin, la philosophie du droit de Hegel serait right-based. Il me semble que les choses ne sont pas si simples. On peut constater que Hegel, qui n'ignore pas évidemment la diversité sémantique du mot, privilégie tantôt une signification du mot reste, tantôt une autre. Il lui arrive aussi d'en associer plusieurs en fonction de la stratégie conceptuelle qui est la sienne dans cette philosophie du droit, une expression qui était presque inusitée au moment où il l'utilise, philosophie du droit qu'il conçoit comme une pièce d'une encyclopédie des sciences philosophiques et qui est donc tributaire des principes de ce système et de ses concepts cardinaux. Par exemple, lorsque Hegel écrit chaque degré du développement de l'idée de la liberté a son droit en propre, c'est là au paragraphe 30 des principes, et lorsqu'il affirme que, je cite de nouveau, le système du droit et le règne de la liberté effectuée, c'est le paragraphe 4 des principes, il n'est pas évident qu'il emploie dans les deux cas le mot « recht » au même sens, même s'il souligne dans les deux cas le lien étroit entre le concept de droit et celui de liberté, auquel, par ailleurs, Hegel confère une signification tout à fait particulière. J'y reviendrai, si j'ai le temps. De surcroît, les choix que nous faisons quand nous lisons ou traduisons le texte de Hegel, un autre d'ailleurs, dépendent évidemment de nos propres options philosophiques. Pour reprendre l'opposition usuelle des deux grandes orientations entre lesquelles se partage la philosophie du droit, si je suis un partisan du droit naturel ou d'une variante du jus naturalisme, je ne lirai pas le texte des principes de la même manière que si j'adhère à telle ou telle variante du positivisme juridique. J'aurai tendance dans les deux cas à interpréter le texte à partir de mes propres positions. Pour ma part, je considère souhaitable, j'y reviendrai à la fin de mon exposé, de dépasser cette alternative droit naturel ou positivisme juridique, souvent considérée de part et d'autre comme inéluctable. Considérer le droit comme une configuration institutionnelle historiquement variable et définissant de façon solidaire les propriétés objectives du système juridique, le droit, et les pouvoirs subjectifs, les droits, qu'il confère aux individus et aux groupes sociaux, est peut-être un moyen de surmonter le conflit des écoles en combinant les déterminations auxquelles jus naturalisme et jus positivisme accordent une préférence exclusive. Ma propre lecture des principes se fonde sur cette hypothèse institutionnelle dont j'espère qu'elle peut contribuer à clarifier la question du rapport entre le droit et les droits chez Hegel. Mais auparavant, je reviens rapidement sur, disons, l'historique de la distinction entre droit subjectif et droit objectif. Cette distinction apparaît en Allemagne à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle, renvoie pour cela aux indications fournies par Olivier Jouan-Jean dans un article déjà ancien, « Les aventures du sujet dans la narration villéienne de l'histoire de la pensée juridique ». Vers 1830, la distinction est devenue usuelle, comme en témoigne le grand juriste britannique John Austin après une tournée dans les universités allemandes. Constatant que les langues allemandes, françaises et italiennes utilisent un même mot, recht, droit, diritto, pour désigner deux choses tout à fait différentes, à savoir le droit comme faculté et le droit comme ordre objectif de justice, Austin déplore que l'usage se répande des expressions « droit au sens subjectif » et « droit au sens objectif » pour désigner ce que la langue anglaise nomme respectivement « right » et « law ». Considérant, en disciple de Jeremy Bentham, qu'il est que, je cite, « every legal right is a creature of a positive law », Austin souligne que le lexique des droits subjectifs efface la dépendance des droits à l'égard de la loi, entendue comme un commandement du souverain. Que l'on suive ou non Austin, et Herbert Hart a vigoureusement critiqué l'impérativisme un peu fruste de ce philosophe du droit, on est en tout cas ici au cœur du débat. Affirmer l'existence de droits subjectifs, et a fortiori de droits subjectifs originaires, n'est-ce pas compromettre la priorité logique de la law sur le right, de l'obligation juridique sur les droits. Quoi qu'il en soit, ce vocabulaire s'est imposé parmi les juristes continentaux au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, en particulier au sein de l'école pandectiste allemande, qui développe une interprétation volontariste du droit subjectif comme puissance de volonté, ou à l'inverse, dans l'Interessen Jurisprudenz, qui conçoit le droit subjectif comme un intérêt juridiquement protégé selon la fameuse formule de la fameuse définition de Hering. Quelle qu'en soit l'interprétation, la notion de droit subjectif a un caractère central dans l'image que les sociétés post-révolutionnaires ont d'elles-mêmes et par conséquent dans la théorie juridique et la philosophie du droit. Une des raisons de cette centralité des droits est le rôle cardinal que joue désormais la liberté en tant que valeur, mais aussi en tant que catégorie juridique et politique. La promotion des droits subjectifs au rang de catégorie juridique centrale ne doit évidemment rien au hasard. La langue juridique n'a fait que refléter une évolution en cours depuis les débuts de l'époque moderne et qui a culminé avec les déclarations des droits de la fin du XVIIIe siècle. Sans aller jusqu'à entériner la thèse de Michel Villet, excusez-moi, selon laquelle le droit subjectif est un dommage collatéral de l'ontologie nominaliste de Guillaume d'Occam, il est patent que cette notion, le droit subjectif, est absente du droit romain, où le jus définit une capacité d'agir juridiquement dans un cadre normatif défini par la loi ou par l'édit du prêteur, deux à la fois, et non pas des prérogatives qui sont à l'avantage de leurs bénéficiaires et auxquelles ils peuvent en principe renoncer selon la définition du droit subjectif donnée par Paul Roubier, que je prends comme exemple. Il s'agit donc incontestablement d'une notion moderne. Son émergence, à partir de la fin du XVIe siècle, d'abord chez Suarez, puis chez Grotius et bien entendu chez Hobbes, va de pair avec celle du sujet de droit, notion qui, elle-même, participe de la quête de l'identité dont résulte, selon Alain de Libera, l'idée moderne de subjectivité. Elle participe, cette notion, d'une vaste reconfiguration du champ juridique dans laquelle la notion de sujet de droit acquiert une position centrale qu'elle n'avait pas dans ses formes prémodernes. Cet individualisme juridique, au demeurant, a fait l'objet de diverses critiques, notamment de la part de ceux qui considèrent que le sujet de droit et ses droits supposent un acte objectif d'institution. La montée en puissance des droits subjectifs est liée à certaines propriétés structurelles des sociétés modernes, dont les déclarations des droits de la fin du XVIIIe siècle ont été le point d'aboutissement plutôt que l'origine. Max Weber a souligné le lien qui existe entre, d'une part, la formation d'un système juridique dotant les individus de pouvoir, de droit, s'exerçant indépendamment de leur qualité et de leur statut social, et, d'autre part, l'action des deux grandes forces rationalisantes que sont, d'une part, l'extension de l'économie de marché et, d'autre part, la restriction du champ du droit corporatif au profit de l'État, désormais investi d'un quasi-monopole de la production du droit objectif. Il y a là un paradoxe instructif. Le développement de la problématique des droits subjectifs accompagne la formation du marché libre, mais aussi celle de l'État souverain, ce qui aboutit à un assujettissement croissant des sujets à un pouvoir centralisé et irrésistible. Pour le dire en allemand, langue qui, contrairement au français, dispose de deux termes pour désigner les deux sens du mot sujet, le Rechtssubjekt est aussi un Untertan, un sujet au sens politique. Foucault a souligné, avec perspicacité, ce nexus qui fait que, je le cite, dès le tout début, l'État fut à la fois individualisant et totalitaire. Le découplage manifeste dans le cas des droits de liberté, du droit subjectif et de l'obligation, confère aux droits subjectifs, au pluriel, une souplesse qui leur permet d'être mobilisés dans les contextes les plus divers. C'est une des raisons principales du succès politique et théorique de la thématique des droits subjectifs, qui répond par ailleurs à des transformations objectives de l'organisation sociale. Rétrospectivement, on peut dire que la distinction du droit objectif, law, et du droit subjectif, right, n'a pas eu pour seule fin de résoudre une difficulté lexicale. Son enjeu véritable était une reconfiguration du champ du droit sur la base des droits subjectifs ou, dans la version populaire, des droits de l'homme, dont le résultat fut une inversion de la formule de Bentham pour la conscience contemporaine « Law is son of the rights ». Alors j'en viens enfin à Hegel. Hegel, qui avait une connaissance appréciable de la littérature juridique de son temps, a pu rencontrer la distinction nouvelle entre droit objectif et droit subjectif, par exemple chez Gustave Hugo, précurseur de l'école historique du droit, avec qui il polémique vigoureusement au paragraphe 3 des principes et qui a lui-même publié une recension assassine de l'ouvrage. Cette distinction, alors, si j'avais le temps, je citerai un long passage de la Juristische Encyclopédie de Gustave Hugo, dans laquelle il explique ce qu'il faut comprendre par droit au sens subjectif et droit au sens objectif. Une distinction qui n'allait pas du tout de soi encore, qui était en quelque sorte toute neuve. Cette distinction dont Hugo confesse qu'elle est maladroite est faite par exemple, oui, c'est ce que je viens de dire, au début de la Juristische Encyclopédie. Bon, je passe sur Hugo. De son côté, le fondateur de l'école historique du droit, Savigny, collègue et puissant rival de Hegel à l'université de Berlin, définit en 1840 le droit subjectif comme, je cite, « un pouvoir dont dispose la personne singulière, préfigurant ainsi la notion de « Willensmacht » que les pandectistes, avec Winscheid, mettront au centre de leur théorie des droits. Savigny précise « Nous nommons ce pouvoir un droit de la personne, ce qui veut dire une compétence. » Befugnis. Certains le nomment droit au sens subjectif. Mais Savigny ajoute aussitôt que ce droit subjectif requiert, je le cite, une assise plus profonde. Celle-ci se trouve dans le rapport juridique, Rechtsverhältnis, de personnes au sein d'une institution juridique, Rechtsinstitut, par exemple la propriété, qui a elle-même un caractère objectif et dont la signification est le produit d'une création collective et historique par l'esprit du peuple, esprit dont les juristes, et notamment les historiens du droit, sont les porte-paroles attitrés. Ainsi, le droit objectif, dont la science juridique a pour tâche de reconstruire le système, et, je cite encore Savigny, la règle générale qui règne sur les droits individuels. À l'encontre de la vision right-based du droit qui inspire les déclarations des droits pour lesquelles il n'a guère de sympathie, comme on le sait, Savigny entend privilégier une conception systématique centrée sur la notion de Rechtsinstitut, dans laquelle les droits ont une position non pas secondaire, certes, mais seconde, dérivée, et non originaire. Hegel, qui n'ignore évidemment pas le double sens qu'a le mot « Recht », n'a utilisé que rarement les expressions « subjectives Recht » ou « objectives Recht » ou autres expressions voisines. Et lorsqu'il, alors je précise ici que, en fait, tout mon exposé repose, j'ai fait un travail très bête, mais qu'il fallait faire, je crois, j'ai fait une recension de toutes les occurrences du mot « droit » dans les principes de la philosophie du droit et l'encyclopédie, et j'ai tâché, j'ai fait une sorte de tableau où j'essayais de consigner les différentes significations qu'avait le mot dans le contexte où il était utilisé. Le mot « recht » et tous ses dérivés, « rechtlich », etc. Donc, Hegel utilise rarement la notion de droit subjectif, et lorsqu'il le fait, ce n'est pas du tout au sens où les juristes commencent à l'employer. Ainsi, au paragraphe 140 des principes, dans la section moralité, il évoque le droit subjectif de la conscience de soi, mais c'est pour désigner ce que Hegel nomme le droit de la liberté subjective, autrement dit, le droit, qui est aussi un devoir, qu'a le sujet moral d'évaluer de façon normative, en conscience, ses propres actes. Au demeurant, le droit de la volonté subjective, défini au paragraphe 107, toujours dans la section moralité, concerne la seule subjectivité morale et non pas le sujet de droit ou la personne juridique. Ce n'est donc aucunement un droit subjectif au sens juridique moderne du terme. De ce droit moral, subjectif moral, le sujet peut d'ailleurs faire un fort mauvais usage dont les diverses formes, hypocrisie, probabilisme, etc., font l'objet d'une critique impitoyable dans la remarque du paragraphe 140 des principes. La subjectivité, lorsqu'elle exerce son droit, ne doit ou ne devrait jamais oublier que ce droit est en toute hypothèse soumis à ce que Hegel nomme le droit absolu de l'objectivité. Celle-ci, en contrepartie, a besoin de recevoir l'adhésion vivante des subjectifs. En revanche, lorsqu'il s'agit du droit abstrait, ce qu'il appelle le droit abstrait, c'est-à-dire, en gros, droit privé, Hegel souligne toujours son caractère fondamentalement objectif. Le droit rationnel s'identifie à la liberté objective et doit être soigneusement distingué de la liberté formelle et de l'intérêt privé particulier. Le droit privé, c'est la liberté, mais aussi le droit en général, c'est la liberté objectivée dans des normes et des institutions qui résistent à l'invasion de l'arbitraire subjectif, tout comme aux diverses formes d'aliénation liées à une pression externe, sociale par exemple. Toutefois, ces normes objectives, à la fois juridiques, morales et éthiques, requièrent l'engagement de la subjectivité, sans lequel elles sont dépourvues d'effectivité, comme la norme morale du bien risque toujours de l'être. La question de la part respective du subjectif et de l'objectif dans la conceptualisation hegelienne du droit n'est donc pas épuisée. Hegel pense-t-il le droit objectif, the law, à partir du droit subjectif, right, ou inversement, fait-il du droit subjectif au sens juridique du terme, cette fois, un effet du droit objectif, ou, comme dit Bentham, son enfant. Donc, je vais maintenant exposer le résultat de mon enquête quantitative sur les occurrences du mot droit et de ses dérivés, enfin, les termes apparentés, dans les principes de la philosophie du droit. Trois cas se présentent quand on examine ces usages. Celui où ce mot a exclusivement le sens de droit subjectif, right. Celui, deuxième cas, où il désigne incontestablement le droit objectif, disons law. Et enfin, celui où les deux significations semblent se superposer. Exemple du premier cas, le plus fréquent, environ 50% des occurrences que j'ai répertoriées, je cite, la personne a le droit de déposer sa volonté en toute chose. Ici, il s'agit de toute évidence du droit de propriété, entendu comme droit subjectif, du droit fondamental qu'a la personne en tant qu'elle est dotée de capacités juridiques, de, je cite, se donner une sphère externe de sa liberté en s'appropriant les choses. La personnalité ne se réduit sans doute pas à la personnalité juridique, mais celle-ci en est la manifestation. Être une personne, c'est avant tout être un titulaire de droit, au pluriel. De manière générale, lorsque le mot Recht est accompagné d'un possessif ou d'un déterminant, ou, à quelques rares exceptions près, lorsqu'il est utilisé au pluriel, dit Recht, c'est bien entendu le sens subjectif, right, qui est privilégié. Ceci ne concerne pas d'ailleurs la seule sphère du droit privé, où sont examinés les droits des personnes et les obligations qu'elles génèrent dans le commerce juridique, mais aussi la sphère de la moralité et celle de la Sittlichkeit, dont une des différences avec les deux précédentes sphères est la concomitance et non la simple complémentarité des droits et des obligations. Il faudra néanmoins revenir sur la question. Le lien établi par Hegel entre le droit abstrait, la personnalité et la volonté signifie-t-il que la conception hegelienne du droit est right-based? Deuxième cas, environ 25% des occurrences répertoriées, celui où le mot Recht désigne principalement, manifestement, le droit objectif au sens large du terme, c'est-à-dire un ensemble plus ou moins systématisé de normes générales indépendantes du bon vouloir des individus. Exemple de cet usage, les paragraphes 211 et 212 qui proclament la nécessité pour le droit de se voir conférer la forme universalisante de la loi des êtres. Alors, je ne lis pas le texte extrait des paragraphes 211 et 212 que vous avez sous les yeux, mais ce que je voulais noter, c'est que les deux traductions anglaises actuellement utilisées ont traduit dans ce passage le mot Recht par right et le mot Gesetz par law. Or, ceci pose des problèmes qui concernent l'idée même du droit selon Hegel. Il me semble en tout cas peu contestable que l'équivalence qu'établissent ces deux paragraphes 211 et 212 entre Recht et Gesetz, ou du moins l'affirmation selon laquelle le droit a vocation à devenir Gesetz, loi, renforcée par la vive critique qui est faite au paragraphe 211 de la prodigieuse confusion de la common law et du droit jurisprudentiel, tout cela implique que le mot Recht a ici d'abord la signification d'un corps de normes objectives. Les droits subjectifs, rights, ne sont concernés que dans la mesure où la loi les établit et les garantit. On a donc ici une claire affirmation de la subordination des droits aux droits, entendu comme ordre normatif objectif. Les traductions anglaises qui choisissent d'utiliser le seul et même mot « right » ne permettent pas de rendre compte de cette opposition qui correspond évidemment dans la langue juridique à celle entre « right » et « law ». Troisième cas enfin, environ 25% des cas, celui où le mot « right » semble recevoir à la fois les deux significations de droit objectif et de droit subjectif. Par exemple, au paragraphe 4, où Hegel donne une définition du droit que je ne relis pas, vous l'avez sous les yeux. Dans ce paragraphe 4, la référence à la volonté libre en tant que point de départ du droit semble impliquer ici aussi une primauté, à première vue, de la dimension subjective. Le droit, c'est ou ce serait d'abord mon droit en tant que celui-ci est un acte de volonté s'exprimant dans certaines formes. Mais la prise en considération, dans ce même paragraphe, du système du droit et sa caractérisation comme seconde nature de l'esprit engage, me semble-t-il, une compréhension objective du droit comme système de normes dont la quasi-naturalité, seconde nature, témoigne de son indépendance à l'égard de la subjectivité des acteurs juridiques. Ici, comme dans bien d'autres cas, das Recht désigne un ensemble complexe de prescriptions et de pouvoirs dont il importe, au-delà du vocabulaire et de ses ambiguïtés, de penser l'articulation. Certes, la référence à la volonté nous incite à penser que c'est bien la signification subjective qui est en cause. Hegel, en somme, opposerait mon droit ou ma revendication d'un droit au droit de la personne en général. Cette lecture est plausible, ce que j'appelle la lecture right-based. Mais il ne faut pas oublier que pour Hegel, la volonté qui est au fondement du droit n'est pas réductible à la volonté subjective, à la volonté de l'individu singulier. Elle est, dit-il, une volonté absolument objective, une volonté qui se porte à l'universalité et se sépare de ce qu'elle peut avoir d'arbitraire. J'attache beaucoup d'importance à l'utilisation que Hegel fait de ce concept de volonté objective. Ce que nous apprend cette brève enquête quantitative n'a au fond rien de bouleversant. Hegel mobilise tout le spectre des significations que peut recevoir le mot « Recht ». Cette souplesse est d'autant plus nécessaire que les principes procèdent à une extension considérable de l'usage du vocabulaire du droit en l'appliquant à chacune des configurations de ce que l'encyclopédie nomme l'esprit objectif. Je cite, « Chaque degré du développement de l'idée de la liberté a son droit propre parce qu'il est l'être-là de la liberté dans une de ses déterminations propres. » Mais celle-ci ne fait que démultiplier la question. Que signifie en effet, dans le passage que je viens de citer, son droit propre? Cela veut-il dire que chaque strate de l'esprit objectif, le droit abstrait, la moralité, la Sittlichkeit et ses subdivisions, possède un droit, en quelque sorte, un droit subjectif à exister, au même titre que les autres? Ou bien, cela veut-il dire que chacune de ces droits, de ces strates, pardon, le droit abstrait, la moralité, etc., possède son propre régime normatif. Sans doute les deux. Au demeurant, la suite du texte lève en partie l'ambiguïté. Hegel déclare en effet que, la moralité, l'éthicité, l'intérêt de l'État, chacun de ces degrés est un droit en propre, est un droit en propre, parce que chacune de ces figures est une détermination et un être là de la liberté. L'utilisation dans cette phrase du verbe être est un droit, là où on attendrait plutôt avoir, a un droit, montre que, à mon avis, dans ce paragraphe des principes, Hegel considère d'abord le droit, ou les différentes sphères, strates, comme j'ai dit, du droit au sens large, au sens d'esprit objectif, comme un corpus objectif de normes. Mais naturellement, à chacune de ces sphères ou de ces strates va correspondre un type spécifique de droit subjectif et de vecteur de ces droits. Les droits de la personne juridique, ceux de la subjectivité morale, ceux du membre de la communauté familiale, ceux du membre de la société civile, du bourgeois, comme dit Hegel, ceux, enfin, du citoyen politique. Ces types de droits subjectifs sont différents, comme sont différentes les configurations institutionnelles dans lesquelles ils s'inscrivent. Le seul moyen de lever ces ambiguïtés, ou peut-être d'en justifier l'existence, c'est de s'interroger sur l'articulation des concepts de droit, de volonté et de liberté, ce qui requiert de réinscrire la philosophie du droit et des droits de Hegel dans le contexte de sa philosophie de l'esprit et par voie de conséquence de sa logique, puisque celle-ci est l'assise du système. Eh bien, c'est précisément ce que je ne vais pas faire, faute de temps, et je vais donc sauter la partie où j'essayais d'examiner l'articulation de ces concepts de droit, de volonté, de liberté dans le contexte général du système hegélien pour passer à la dernière partie de mon exposé, le droit, les droits et les obligations dans le contexte d'institution. Ce que Hegel nomme dans l'encyclopédie l'esprit objectif recouvre un ensemble de configurations, normes, pratiques, croyances, donnant à la liberté une teneur objective, indépendante du bon vouloir des subjectivités singulières, mais requérant pourtant leur adhésion, raison pour laquelle la référence à la volonté demeure indispensable, même si son concept doit être remanié en profondeur. Ces configurations, qui forment en particulier le dense réseau de ce que Hegel nomme Sittlichkeit, j'ai traduit par éthicité, sont le vecteur de cette adhésion qui ne peut jamais être extorquée en tant qu'elle contribue à assurer l'unité de la volonté rationnelle avec la volonté singulière. Quelles conséquences cette redéfinition de la volonté et de la liberté en termes de processus surmontant l'opposition du subjectif et de l'objectif, ça c'est ce que j'ai essayé de montrer la partie que je n'ai pas, que j'ai sautée, a-t-elle sur le statut du droit et des droits? La théorie hegélienne du droit est-elle, comme le supposent la plupart des commentateurs, surtout anglophones, right-based, ou est-elle au contraire duty-based? Ou bien ne cherche-t-elle pas plutôt à contourner cette alternative? L'introduction de la section consacrée à l'esprit objectif dans l'encyclopédie offre des éléments de réponse à ces questions. L'esprit objectif combine deux processus interdépendants. D'une part, celui de l'unification de la volonté individuelle et de la volonté universelle, dans les termes de Rousseau, de la volonté particulière et de la volonté générale, et d'autre part, celui de l'objectivation de la liberté qui, je cite Hegel, configurée en l'effectivité d'un monde, reçoit la forme de la nécessité. De ce fait, tout au long de son développement, l'esprit objectif comporte à la fois une dimension objective et une dimension subjective. Il se compose à la fois de configurations normatives impersonnelles que désigne le terme générique « loi », Gesetz, on pourrait parler de droit objectif, et de mode d'appropriation subjective de cette normativité, les « coutumes éthiques », dit Sitten, ou si l'on veut, les croyances partagées incorporées dans des pratiques. L'esprit objectif, c'est l'unité complexe, jamais complètement stabilisée, de la loi et des mœurs, comme l'a indiqué Montesquieu, dont Hegel loue constamment le point de vue authentiquement philosophique et la profondeur du regard. Le paragraphe 486 de l'encyclopédie, complétant les paragraphes 151 et 261 des principes, fournit des informations permettant de préciser le statut des droits subjectifs dans l'économie générale de l'esprit objectif. Il commence par justifier l'extension de l'usage du concept de droit au-delà du droit juridique borné à l'ensemble des déterminations de l'esprit objectif en tant qu'elles sont des déterminations de la liberté. Le droit, en quelque sorte, c'est tout ce qui a rapport avec de la normativité objective ou institutionnalisée. Le paragraphe 486 souligne ensuite que ces déterminations, pour les individus, apparaissent d'abord comme des obligations ayant vocation à s'intérioriser sous forme d'habitudes, de coutumes, de mœurs, donc de pratiques involontaires, y compris lorsqu'elles génèrent des droits pour les individus. C'est ce qu'on peut vérifier à propos du droit privé, qui est pourtant à première vue le domaine qui se prête le mieux à une lecture right-based. En effet, même si le fil conducteur de l'analyse du droit abstrait est la notion de droit subjectif, dont la propriété est le paradigme, Hegel souligne d'emblée que ces droits, les droits de la personne, sont les corrélats d'une obligation fondamentale qu'il nomme de manière très kantienne le Rechtsgebot, la prescription du droit, qu'il formule ainsi, sois une personne et respecte les autres en tant que personne. C'est donc, si j'ose dire, la norme objective de la personnalité qui génère et justifie les droits subjectifs tels qu'ils sont déclinés dans les sections traitant de la propriété, du contrat et des formes de violation et du rétablissement du droit et des droits. Au demeurant, et c'est le principal enseignement du paragraphe 486 de l'encyclopédie, il importe de surmonter l'opposition abstraite entre vision right-based et vision duty-based du droit, car, je le cite, « cela même, je cite Hegel, cela même qui est un droit est aussi un devoir ». Alors, je précise que le Bernard Bourgeois, dans sa traduction de l'encyclopédie, traduit le mot allemand « Pflicht » par « devoir », alors que moi, je l'ai traduit dans ma traduction des principes par « obligation ». Mais c'est bien le même mot « Pflicht » qui est en cause. Donc, je reprends. « Cela même qui est un droit est aussi un devoir, Pflicht, et ce qui est un devoir est aussi un droit. » En effet, c'est seulement, précise Hegel, dans le champ du phénomène que les droits et les obligations semblent distribués entre des personnes différentes selon le schéma. Le droit de A a pour corrélat l'obligation de B et réciproquement. Mais, ajoute Hegel, selon le concept, chaque type de droit subjectif est, pour son titulaire même, assorti d'obligations. Par exemple, si je suis propriétaire d'une chose, j'ai sur elle sans doute un droit exclusif d'usus et abusus, mais ce droit s'accompagne de l'obligation tacite de manifester par l'usage, l'entretien, etc., ma volonté d'en demeurer propriétaire. Sinon, c'est la désuétude. Même le droit que j'ai sur mon propre corps, qui exclut ce non-droit absolu qu'est l'esclavage, même si les arguments abolitionnistes habituels sont déficients aux yeux de Hegel, même ce droit que j'ai sur mon propre corps doit être étayé, entretenu par un travail d'appropriation de soi qu'est pour chacun la culture matérielle et spirituelle de ses aptitudes. Bref, l'apparence de la différence entre droits et devoirs, droits et obligations, tient seulement au décalage qui persiste dans la sphère du droit abstrait, du droit privé, entre les déterminations normatives et la façon dont elles sont intériorisées par les sujets. En dépit de cette convertibilité fondamentale des droits et des obligations, les choses se présentent différemment dans chacune des trois sphères de l'esprit objectif, comme le note la remarque du même paragraphe 486. En gros, on peut dire que dans la sphère du droit abstrait prévaut, au moins en apparence, le point de vue des droits, dont il s'agit alors d'établir les formes d'acquisition, de transfert et de rétablissement. Dans la sphère de la moralité, prédomine au contraire le point de vue des obligations. Il s'agit alors de réduire l'écart qui existe entre la norme objective, la norme morale objective, disons le bien, point de convergence des différents devoirs du sujet moral, et d'autre part l'aspiration subjective à l'autodétermination, tout en démasquant les attitudes subjectives qui, consciemment ou non, tendent à éluder la norme morale ou à justifier sa violation au nom des circonstances, de la pureté des intentions, etc., etc. C'est seulement dans la troisième sphère, celle de la Sittlichkeit, que la thèse de la congruence entre les droits et les obligations est pleinement vérifiée. L'homme, grâce à l'élément éthique, a des droits dans la mesure où il a des obligations et des obligations dans la mesure où il a des droits. Que ce soit dans la famille, dans la société civile ou dans l'État, l'individu n'a pas seulement des droits auxquels sont corrélés les obligations d'autrui, ces droits génèrent des obligations pour lui-même, par exemple les obligations des parents envers leurs enfants, celles de l'acteur social envers les groupements institutionnels auxquels il appartient, etc. Faute de quoi, ces droits ne sont pas de véritables droits. À vrai dire, selon le paragraphe 261 des principes, c'est dans la sphère de l'État, et donc sur le plan des rapports proprement politiques, que peut être établi, je cite, l'absolue identité de l'obligation et du droit, car en lui, je cite de nouveau, obligation et droit sont réunis en une seule et même relation. Bref, la conception hegelienne du droit ou de l'esprit objectif récuse l'alternative, souvent présentée comme incontournable, entre une vision right-based et une vision duty-based. Certes, selon les secteurs concernés, l'une des deux perspectives peut occuper le devant de la scène, celle des droits subjectifs dans le droit abstrait, celle des obligations dans la moralité. Mais fondamentalement, ces deux perspectives sont non seulement complémentaires, mais rigoureusement indissociables, au point qu'elles en viennent, dans les passages que je viens de citer, à se confondre. Il faut préciser à ce propos que la Sittlichkeit, au sens de Hegel, n'est pas une troisième sphère qui serait juxtaposée en quelque sorte à celle du droit et à celle de la moralité. Il faut plutôt considérer que le droit abstrait et la moralité sont des composantes non indépendantes, comme dit Hegel, des moments au sein de la totalité éthico-politique. Ils n'ont d'effectivité, en effet, qu'articulée au sein de l'unité concrète de la Sittlichkeit, qui seule répond véritablement à la définition complète de l'esprit objectif. De ce fait, aussi bien les droits de la personne juridique que les obligations du sujet moral sont subordonnés à la perspective de la Sittlichkeit qui récuse explicitement le primat de l'une ou de l'autre perspective. Ce qui, dans la théorie de l'esprit objectif, permet ce dépassement de l'alternative entre une conception rights-based et une conception duty-based du droit, est selon moi la structuration institutionnelle du droit. En effet, c'est en tant qu'ils agissent dans le cadre d'institutions que les individus sont susceptibles de mettre en accord leurs aspirations, qui prennent la forme de revendications de droit, et les conditions normatives de leur action, qui se présentent à eux sous la forme d'obligations. C'est le caractère institutionnel de configurations comme la famille, le mariage, le marché, la corporation et, bien entendu, l'État, qui leur permet de définir, pour les individus qui en sont les agents, un complexe de droits et d'obligations statutaires dont on ne peut rendre compte de manière satisfaisante, ni dans une perspective juste naturaliste classique, ni dans une perspective juste positiviste standard. Mais que faut-il entendre exactement par institution, j'ai presque fini, dans le contexte de la pensée de Hegel? Il convient, à mon sens, de conférer au terme une acception très large, comme ce sera le cas plus tard chez les juristes dits institutionnalistes. Une institution est un système normatif coordonnant de manière durable, le plus souvent de manière non concertée, les actions d'individus ou de groupes, et qui peut, mais qui ne doit pas nécessairement, être organisée selon des règles explicites. Son origine n'est pas à chercher dans un événement naturel, mais dans une règle constitutive, comme dit Searle, de nature sociale. Cette règle peut être réelle, lorsque l'institution fait l'objet d'une définition explicite, ou mythique, si sa fondation est attribuée à une autorité suprahumaine. Enfin, parmi les institutions, il convient de ne pas compter seulement celles que Maurice Auriot a nommées les institutions personnes, à savoir celles qui peuvent, en vertu de certaines propriétés, disposer d'une quasi-individualité, mais aussi les institutions-choses, comme la monnaie, la propriété, le contrat, qui correspondent peu ou prou à ce que Savigny nomme les res institutum. Je tiens pour acquis, ayant déjà longuement argumenté sur ce point, que les institutions, en ce sens très large, constituent la syntaxe de la doctrine de l'esprit objectif dans son entier, et pas seulement de la théorie de la Sittlichkeit. Dans les principes, le droit et la désignation métonymique d'un complexe d'institutions juridiques, sociales et politiques, au sein desquels s'articulent règles objectives et dispositions subjectives et qui définissent aussi bien des droits que des obligations. Il est donc contraire à la perspective de la philosophie du droit au sens extensif donné à cette expression par Hegel de privilégier le point de vue des droits subjectifs comme d'ailleurs celui des obligations. C'est pourquoi cette philosophie du droit n'est pas, n'en déplaise aux traducteurs et commentateurs anglophones, une simple philosophie of rights. Je vous remercie et m'excuse d'avoir un peu débordé.